On commence tout de suite, on perd pas de temps par les marchés parce que les nouvelles ont été tellement bonnes en 2022, c'est fabuleux. Franchement, 2022, extraordinaire. Des indices boursiers qui ont perdu entre 9 et 35%. On n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle toujours de la bourse. Et les gens parlent pas du tout de l'autre partie des placements qui sont les obligations. Bah oui, les taux d'intérêt montants, le cours des obligations, c'est-à-dire les emprunts d'État ou d'entreprise a baissé. Et donc,
c'est quand même le truc le plus contre-intuitif,
ouais,
le plus compliqué.
Totalement. Et que personne ne comprend toujours pas. Et donc, c'est quand on parle de krach obligataire, les gens comprennent rien. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui est quand même très intéressant, c'est de se dire que aux États-Unis, la grande classique, c'était 60% actions, 40% obligations. La performance cette année de ce portefeuille dit équilibré, 60% actions, 40% obligations, normalement c'est quelque chose qui vous permet de passer les périodes bonnes comme mauvaises, a été la pire depuis 1931 et 1937. Donc on remonte à très loin. On tourne la page. Moi, je propose, hein. On passe à autre chose.
On va expliquer ça aux clients.
Qu'est-ce que vous nous annoncez pour 2023, Virginie Robert, sur les marchés?
Les
marchés américains.
Les marchés américains, oui.
Alors, expliquez-nous quand même ce qui est contre-intuitif aussi. Pourquoi sont les alors qu'on est, on est en train d'expliquer que franchement, les États-Unis ont tout gagné. Hein. Mm-hmm. Indépendance énergétique, l'armement, enfin tout ce dont on peut parler avec la guerre en Ukraine. Nous, on était en première ligne. On s'est tapé vraiment la guerre en Ukraine, on l'a eu nous. Pourquoi c'est le marché américain?
Il y a deux points. Il faut regarder dans le rétroviseur, parce que les années précédentes, les marchés avaient été surperformants.
Depuis
et
des
pourquoi
années.
Parce que valeur de croissance, et notamment la tech, qui avait largement participé. Et là, dans un schéma de remontée des taux, les valeurs de croissance sont celles qui sont impactées, pénalisées le plus fortement. Et comme c'est le plus gros poids dans les indices, il faut savoir que la baisse du S&P, c'est 40% dû au GAFA. Hein, je rajoute
comme la hausse,
Tesla
et comme la hausse.
Donc il y a eu ce de-rating et donc ce de-rating il est plus prononcé. Il est tout à fait, je dirais, il y a une logique mécanique qui s'est développée.
Il y a une mécanique, mais qui n'est pas logique. Parce que je vais vous dire pourquoi je trouve pas ça logique. C'est que c'est compliqué. J'essaye d'expliquer ça à des gens qui sont pas dans la finance, de leur dire que des sociétés qui ne sont pas endettées voient leur valeur qui diminue
parce que
les taux d'intérêt remontent.
Marc, c'est la fameuse règle, hausse des taux, on pénalise, il faut avoir de la value ou des cycliques, encore un petit peu de cycliques, quoique les cycliques commencent là réellement à baisser, puisque évidemment en récession, enfin cool down, comme je disais, et on oublie croissance. Et c'est des pans entiers de secteurs qui, lorsque vous avez, pas plus tard que jeudi, après l'ADP, vous avez l'ADP qui est meilleur qu'attendu, le marché baisse sur la nouvelle, et qu'est-ce qui baisse? Vous prenez le secteur des softwares, c'est classique, c'est une espèce d'indicateur global, et on prend tout dedans sans aucune différenciation. Voilà. Et ça baisse.
2023.
Et 2023, je l'avais déjà dit, mais pour moi, 2023, ça va être l'année de différenciation. Parce qu'il faut quand même pas oublier que le juge de paix, y compris dans la lecture de la récession, c'est les résultats des sociétés. Mmh. Et qu'est-ce qu'on attend? On attend des choses très disparates selon les secteurs. Donc ça va être très intéressant de voir ce qui se passe en 2023. Parce que comme toujours, dans les crises, vous avez ceux qui se débrouillent bien, ceux qui, c'est très compliqué. Et puis vous avez ceux qui émergent. Voilà. Et il y a toujours de nouvelles sociétés qui émergent dans les crises. Donc ça, c'est bien aussi.
Donc vous êtes en train de nous dire que 2023 sera l'année du stock picking?
Oui. Stock picking. Et peut-être ce que je dis.
Franchement, on entend ça tous les ans.
Ouais. Oh, désolé.
Non, mais moi, j'ai rien dit.
Non, pas forcément stock picking. Je dis qu'il faut avoir un peu plus de cap, de moyenne cap, que des grosses caps, parce que là je pense qu'il va y avoir des choses
moyenne.
Oui, merci, voilà, je cherche.
Moi je suis un peu débile.
Mais c'est bien de
mais les indices globalement, par exemple le Nasdaq, vous nous dites qu'il va remonter.
C'est rien, les indices, Marc.
C'est mon job
de dire où se trouvent les indices.
Donc
à la fin de l'année.
Le Nasdaq, vous ne nous annoncez pas aujourd'hui que le Nasdaq va rebondir.
Si on est dans cette logique, on reprend la logique de 2022, si elle s'applique sur 2023, on devrait avoir un Nasdaq qui finit dans le vert effectivement, jusqu'en septembre, on devrait avoir du vert.
Mais là, moi, j'ai une petite question d'épargnant, c'est-à-dire qu'en gros, parce que je me dis.
Mais c'est après les placements.
Oui, mais mon choix, c'est quoi? C'est stock picking ou alors je joue l'indice?
Il va vous le dire.
Oui, mais c'est ça. Non, mais c'est pour ça que c'est important de savoir où se voit l'indice.
Ah ben
non.
Absolument. C'est ça.
Non, mais là, on a le temps, parce que moi, je vois
des valeurs qui devraient baisser. Donc.
Alain Pitou, puisqu'on parle de marché dans le vert et que vous êtes un trop.
En fait, avant de parler de ça, le profil de marché, en fait, tant que les taux, tant qu'il y a cette pression sur le bilan et sur le niveau des taux des banques centrales, on va quand même avoir un peu de stress à être acheteur. C'est-à-dire que vraiment, je pense que, surtout aux États-Unis, qui sont quand même très corrélés aux problématiques de la tech, hein, au sens large du terme. Et il y a les grosses techs qui ont souffert, mais on ne parle pas des petites techs qui ont pris quand même un gros bouillon. C'est du moins 70, moins 80, ouais, quand même, sur beaucoup
par
de dossiers.
Par rapport à des valos absurdes.
Oui, mais si on parle de l'année. Oui, tout à fait. Mais elles avaient aussi extrêmement performé. Donc, voilà. Tant qu'on a ce discours de Fed et de banque centrale qui est un peu à la restriction, on a le marché qui va être un peu pénalisé. Et les entreprises devraient profiter de la période suivante, où quand elles auront plus de visibilité sur l'allure de la courbe, ça ira beaucoup mieux. Après, moi, sur les problématiques value, growth...
Non, mais déjà, les indices, vous nous dites quoi avant de...
En fait, je dirais... une petite hausse jusqu'à l'été, parce que les résultats, il y a quand même pas mal de résultats globalement qui permettent de tenir les marchés. Et puis si les taux arrêtent de monter et que on a un discours un peu plus positif des banques centrales, là les marchés pourraient reprendre un bon 10-15%. Donc ça nous ferait peut-être une année à 15-20, quelque chose comme ça
pour
les marchés.
Pas mal.
Ah bah oui, c'est
15-20.
Regardez, il y a aussi un truc qui est quand même assez étonnant, c'est on se prend un paquet de mauvaises nouvelles, enfin on l'évoquait, les marchés européens avec tout ce qu'on
européens.
Oui, d'accord, mais avec tout ce qu'on... Parce que, mais ils sont moins biaisés que sectoriellement, si on regarde l'ensemble des marchés européens, ils sont moins biaisés sectoriellement que...
Ils le sont un peu quand même.
Oui, bien sûr, mais...
Parce qu'ils ne sont pas tech.
La France, oui, c'est ça. Oui, mais
donc, ils sont biaisés parce qu'ils ne sont pas tech.
Bah, oui, d'accord. Mais enfin, bon, ils ont résisté, mais de manière incroyable.
Ouais.
Enfin, c'est...
Parce qu'il n'y a pas de tech.
Oui, bien sûr, mais enfin, quand même, quoi.
Christopher Dembick,
rapidement. J'aurais tendance à être plutôt optimiste sur les marchés boursiers. Il faudra vérifier de près, et ça correspond au panorama économique, c'est-à-dire qu'on n'anticipe pas un scénario catastrophe. Les entreprises, même si bien évidemment elles vont répercuter la baisse de l'activité, la hausse de l'inflation, finalement le résultat d'entreprise devrait être plutôt bon. Le point clé à surveiller, ce sera les flux. Alors bien sûr, en tout début d'année, c'est toujours un peu, ça ne nous permet pas d'avoir une tendance sur le long terme, mais on voit qu'on commence à avoir des flux qui reviennent même sur les petites et moyennes valeurs. À voir si ce sera confirmé.
Doucement,
très doucement. C'est très très sous-valorisé, mais j'essaye de jouer le rôle d'Eric Wellin. Donc je suis dans ses habits.
Très bien.
Bon, merci, c'est gentil. Il manque juste l'action à vendre et on est bon. Mais effectivement, je pense qu'il y a quand même un beau potentiel sur les marchés actions. Et il ne faut pas être extrêmement négatif. Et en tout cas, ce ne serait pas cohérent avec le scénario macroéconomique que je vous ai mis en avant, qui est plutôt quand même positif. Ce n'est pas une catastrophe.